Bonjour à tous, nous sommes dans le mug numéro 15 et nous sommes le 3 octobre 2019. C'est parti! Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'attaque ce mug en vous disant que j'ai une bonne grosse crève des familles et que je suis un peu fatigué à cause de ça parce que j'ai pas énormément dormi. Donc on va essayer de se chauffer, de se motiver, pump it up, hein, comme on dit, pour les petites news. Je vais vous préparer, enfin je vous ai préparé un petit kawa très très serré, très très corsé, voilà, pour me réveiller. Alors peut-être que sur l'image, a priori ça va, j'ai pas l'air trop crevé, mais bon, il risque d'y avoir des reniflements, les mouchoirs sont prêts, enfin voilà, je suis vraiment en mode un peu la tête dans le cucu, hein, voilà, parce que vraiment, j'ai vraiment la tête dans le coton, c'est terrible. Mais bon, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour ce mug numéro 15. Hier, Marion vous a parlé, parce que j'écoute hein, maintenant beaucoup, beaucoup plus qu'avant, parce que Texcope, j'écoutais pas tout le temps, et là, le mug, j'écoute à chaque fois. Je trouve que, pour faire une autocritique, je trouve que la nouvelle formule pour écouter les petites news pendant 20 minutes, hein, vraiment autocritique de la propre émission, je trouve ça vraiment mieux et je me rends compte que c'est ce que je disais à Jérôme, je me surprends à beaucoup plus écouter justement ça sans voir l'image et juste les news au début, donc c'est plutôt cool. Et Marion, hier, vous avez parlé de la conférence Microsoft, mais évidemment, elle vous en avait parlé en avance de phase. Et bien là, aujourd'hui, voilà, Microsoft a fait sa conférence hier, sa conférence Surface à 16h et on va en parler tout de suite dans le Kawa. Comme je vous ai dit, voilà le petit reniflement à chaque fois, je suis vraiment désolé s'il y en a qui supportent pas trop ça, mais il risque d'y avoir de beaucoup de... Voilà, enfin bon bref, peut-être pas à ce point-là quand même. Bref, donc dans le Kawa aujourd'hui, pas mal de news, je crois qu'il y en a 9 ou 10 à peu près que j'ai sélectionné pour vous. On aura un petit peu de tout, on aura, je vous promets, pas trop d'iPhone et pas trop d'Apple. C'est vrai que sur Nowtech, on a tendance à beaucoup parler d'Apple et de toutes leurs nouveautés, mais pour une fois, ça change un petit peu et c'est assez cool. Eh bien, on parle de Microsoft, et moi j'aime beaucoup les appareils de Microsoft, j'ai pas eu l'occasion de vraiment, on va dire, les tester en plus en profondeur, alors que pourtant c'est des devices qui d'un point de vue, surtout au niveau du ratio d'écran, me plaisaient bien. Il y a un moment où j'ai failli changer d'ordinateur, de passer d'un MacBook à un autre ordi sur Windows, donc forcément. Et je m'étais beaucoup intéressé à la gamme des Surfaces. Le problème de cette gamme, c'est que à l'époque, ils n'avaient pas d'USB-C. Et là, c'est cool, parce que enfin, ils ont écouté... Je sais pas, tout le monde. Et ils ont décidé de mettre de l'USB-C, donc c'est plutôt cool. Alors, ce que je vais faire, c'est donc vous parler justement de toutes ces annonces-là. J'ai pris mes petites notes parce que c'est vrai qu'il y a eu, c'est assez dense, il y a pas mal de choses. Et surtout, je vais vous montrer l'écran ici, voilà, pour vous montrer un petit peu les vidéos pendant que j'en parle. Donc le premier appareil qui a été annoncé, c'est la Surface Laptop 3, qui est en gros, pour vous faire un petit récap, donc elle est maintenant en deux versions. Il y a la Surface Laptop 3 en version 13 pouces et la Surface Laptop 3 toujours en version 15 pouces. Donc pour la version 13 pouces, maintenant c'est un processeur Intel de 10e génération, donc rien de bien surprenant. Performance améliorée de 50% à tester, hein, ça bien évidemment, c'est ce qu'annonce Microsoft. Une nouvelle gamme de couleurs et de matériaux, une version bleu cobalt et gris platine avec un clavier Alcantara, donc ils n'ont pas oublié ce design qui était plutôt sympa, et une version noir mat et sable avec un clavier en métal, ce qui pour certains, fait un peu plus premium. Et ça rappellera. Enfin, clavier métal, non, j'allais dire, ça rappellera la gamme des MacBooks, mais pas du tout. Ils n'ont pas de clavier métal, la gamme des MacBooks. Bref. La Surface Laptop 3 en 13 pouces sera disponible le 22 octobre à partir de 1149 euros. Ce qui reste quand même un prix assez élevé, assez corsé. Et après la Surface Laptop 3 version 15 pouces, ça c'est un truc qui est super intéressant, c'est que ça y est, comment dire, Microsoft et des constructeurs, j'ai l'impression de plus en plus, embrassent AMD. Et sur la version dédiée aux consommateurs, on n'aura pas du Intel, on aura du Ryzen, du AMD Ryzen Surface Edition, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt bien, parce qu'il faut avoir un peu de concurrence hein, sur les processeurs, enfin, je trouve personnellement. Donc c'est bien d'avoir, donc pour les consommateurs, de l'AMD, et pour le business, pour les entreprises de l'Intel, donc pareil, Intel de 10e génération. J'ai checké un peu mes trucs, et donc les deux surfaces sont rechargeables en USB-C. Voilà, j'étais pas sûr et j'ai vite googlé avant le début, parce que tous les news que j'avais collectées au début, justement, disaient qu'il y avait de l'USB-C, mais ne disaient pas si c'était rechargeable. C'est le cas. Normalement, les deux Surface Laptop 3 seront rechargeables en USB-C. Putain, enfin, on va enfin pouvoir, avec du Microsoft, prendre le même chargeur et recharger la Switch, sa batterie externe, recharger sa surface, etc. Donc c'est super bien, c'est très cool. Au niveau des coloris, sur la 15 pouces, on a du gris platine, du noir mat, clavier métal uniquement pour le coup. Et celle-là sera aussi disponible le 22 octobre à partir de 1349 €. Donc je disais que c'est un prix un peu corsé, mais ça reste assez raisonnable par rapport à du MacBook. Voilà, après, bon, on est sur du Windows. Donc voilà, moi, une des raisons principales pour lesquelles je suis sur Mac, c'est parce que macOS, j'aime vraiment beaucoup. Bon, ce live est fait sur un Windows parce que bah, pour streamer Windows, c'est quand même beaucoup mieux. Mais Jérôme pourra vous en dire des choses parce que lui, il stream sur Mac et c'est un peu plus la galère. Mais voilà, donc c'est des. Je pense que ça va être des devices qui vont être super intéressants. On va passer à la Surface Pro 7. Alors ça, c'est un truc, je me permets une petite critique personnelle. Je trouve que la gamme des Surfaces n'est pas très cohérente. Parce que on vient de parler des Surfaces Laptop 3 qui sont plus chères que les Surfaces Pro. Voilà, alors je sais, certains me diront oui, mais la Surface Pro, alors attendez, je vous la mets là, la Surface Pro, en vidéo, et certains diront oui, mais la Surface Pro, c'est celle qui existe depuis plus longtemps, donc, excusez-moi, voilà, elle existe depuis plus longtemps, donc c'est le nom initial qu'ils ont donné, oui, mais je continue de trouver ça vraiment pas très cohérent que le côté Pro soit moins cher que les Surface Laptop 3. Ou free. Voilà. Bref, c'est une petite critique et j'aurais trouvé ça intéressant de remanier un petit peu la gamme, peut-être d'appeler juste ça des surfaces, juste la Surface 7 en fait. Donc avoir les Surface Laptop ou Surface Pro, mais ils voulaient pas rendre ça encore plus confus. Donc peut-être avoir Surface Laptop quelque chose et Surface tout court pour cette gamme-là. Parce que là, bon, ils disent, après, ça reste un device qui peut être utilisé par des pros, évidemment, mais je trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas très cohérent. Donc cette Surface Pro 7, c'est la 2 en 1, hein, c'est celle qui existe depuis très longtemps, elle est entre guillemets deux fois plus rapide que la version précédente à tester. Processeur Intel de 10e génération, plus polyvalent avec des ports USB de type A et C. Alors c'est bien je trouve de garder un peu de type A, mais c'est surtout bien d'avoir de l'USB type C quand même quoi, parce que honnêtement, hein, comme dirait Caradoc et Perceval,
on en a gros!
voilà, et moi j'en avais gros de pas avoir de l'USB-C. Bref. Donc c'est cool. Et c'était d'ailleurs un des trucs qui m'avait freiné hein, pour acheter mon. C'est ce que j'ai dit, je crois, tout à l'heure. Mais c'est un des trucs qui m'avait freiné aussi sur les surfaces, c'est qu'il n'y avait pas d'USB-C et c'était chiant. Bref. Accessoires disponibles dans de nouveaux coloris. J'imagine que c'est le clavier. Donc le clavier maintenant il sera en bleu glacier et rouge coquelicot. J'ai toujours trouvé ce mot très très joli, coquelicot. Bref, bleu glacier et rouge coquelicot. Et ça sera disponible pareil le 22 octobre à partir de 919 €. Et alors bon, ça il faudra demander à Jérôme ou quoi, moi je sais pas, mais peut-être ça sera testé sur la chaîne Naotech, je n'en sais rien. Après, par contre, ce que je sais, hein, quand j'étais encore vidéaste, c'est que Microsoft, ils ont un peu de mal à filer des appareils pour tester. Ils sont pas très dans le YouTube jeu, donc Microsoft, s'il y a des gens qui écoutent, si vous écoutez ce mug et des gens qui bossent à Paris, envoyez un petit peu, hein. On vous fera des tests vraiment cool. Voilà, clin d'œil, bisous. Et la Pro X, qui est donc là pour le coup un tout nouvel appareil, si je dis pas de bêtises, mais normalement je crois que j'en dis pas. Donc c'est une surface 2 en 1, elle est super fine, super légère et super puissante parce qu'elle a une grosse particularité, désolé pour l'épilepsie hein, de la vidéo, elle a une grosse particularité, c'est qu'elle est avec un processeur ARM, c'est-à-dire un processeur qu'on peut retrouver sur des mobiles. C'est un processeur qui a été développé spécialement pour cet appareil, donc un peu à l'instar de ce que fait Apple. Et là, le processeur, c'est du Microsoft SQ1, SQ1, conscient partenariat avec Qualcomm et intégrant la 4G, ce qui est vachement bien. Je trouve que ça, c'est un truc qui manque de plus en plus aux appareils, aux ordinateurs portables, c'est vraiment la 4G. Autant sur une tablette, ça, quoique même sur une tablette, ça serait cool, mais je trouve que sur des appareils qui sont pro, avoir la 4G et éventuellement, quand on achète la Surface, payer un abonnement pour avoir un truc pas trop cher, pour avoir, je sais pas, 20 gigas de data ou quelque chose comme ça. Moi, je me verrais très bien acheter, par exemple, une Surface ou un MacBook et payer 5 ou 10 balles par mois pour avoir 50 gigas de data, un truc comme ça. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Donc, plus de 13 heures d'autonomie. Forcément, un processeur de smartphone, ça a tendance à bien, bien augmenter l'autonomie. Un écran tactile de 13 pouces bord à bord, le plus large jamais conçu pour une Surface Pro. Un nouveau stylet rechargeable. Donc, ça, c'est plutôt sympatoche. Le coloris, il n'y en a qu'un seul, c'est noir mat. Et ça sera aussi un appareil disponible en France le 19 novembre. Donc, un peu moins d'un mois plus tard, pardon, que la Surface Pro 7 et les deux Surface Laptop. Voilà. Et je sais pas si j'ai dit, pour un prix de 1 149 € la Surface Pro X. Les plus rageux d'entre nous diront que le nom ressemble beaucoup à ce que fait Apple, hein, le X. Bon, hein, après ça reste une lettre et un chiffre romain, donc on va pas non plus pinailler. Ils ont également, Microsoft, annoncé les Earbuds, donc c'est des écouteurs sans fil, désolé pour le son, des écouteurs sans fil entièrement tactiles. Voilà, ils permettent d'interagir avec la suite Office, Spotify, de passer des appels. Ok, bon, c'est vraiment un peu comme des AirPods. Réduction active du bruit, ça c'est vraiment intéressant. Donc, on verra après ce que ça donne. Évidemment, tout ça sont des annonces, hein, donc à tester. 24 heures d'autonomie disponible début 2020. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je suis personnellement pas très fan du design. Le boîtier de rechargement est très joli, je trouve. Mais par contre, le design en mode, je sais pas. Enfin, moi, ça me plaît pas. Mais après, je disais la même chose des AirPods quand ils ont été annoncés. Donc, des fois, c'est juste, voilà, il faut juste un petit peu s'habituer à des appareils et au design, hein, ce qui est pas toujours, ce qui peut prendre du temps. Hein. Je vous rappelle vraiment quand les AirPods sont sortis, tout le monde se foutait de la gueule de ces trucs-là. Et 6 mois plus tard, c'était le truc, si tu l'as pas au lycée, tu crains. Vraiment, je caricature évidemment, mais c'est un peu ça. Donc, ils ont annoncé, comme je l'ai dit, Microsoft, les Surface Earbuds. Et maintenant, on va parler du futur. Le futur qui... deux appareils assez, pour le coup, originaux, même si je suis un peu mitigé, mais c'est assez original. Ils ont annoncé, Microsoft, la Surface Neo, le nouvel appareil Surface à double écran pensé pour la productivité. Ce sont deux écrans de 9 pouces, donc c'est quand même pas mal du tout, qui s'ouvrent pour former un seul écran de 13 pouces. Voilà. Donc c'est des écrans LCD très fins, conçus pour la productivité, le multitâche, blablabla. Évidemment, il y a deux écrans. On n'est pas sur le concept du Galaxy Fold, hein. Il y a une charnière au milieu, donc les écrans ne se rejoignent pas. Je trouve ça pas plus mal, pour le coup. Donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez un peu un affichage aussi de Windows 10X, Windows 10X, qui est le Windows 10 pensé, un peu remanié, hein, pour une ergonomie avec ces appareils-là. Donc voilà, j'ai dit, hein, équipé de Windows 10X. Et il y a, ça c'est un point assez original, il y a un clavier qui se replie sur, donc c'est un clavier physique, hein, qui se replie sur l'un des écrans ou bien s'aimante au dos. L'interface de l'écran va alors justement s'adapter à la position du clavier. Et bah, voilà, là vous le voyez exactement à l'instant. Et en fait le clavier va être en bas et ça va permettre à l'écran, au deuxième écran, d'afficher des petits trucs contextuels. Un petit peu comme vous auriez dans, par exemple, une appli... je sais pas, une appli de Facebook Messenger, où vous avez au-dessus du clavier des petites icônes pour envoyer des gifs, pour envoyer, des stickers, des choses comme ça. Et ben là, c'est un petit peu la même idée. Voilà. La Surface Neo donc sera disponible fin 2020. Et ils ont donc annoncé la Surface Neo, et ensuite, il y a la Surface Duo, qui est la petite sœur. C'est une Surface, hein, donc je vais vous la montrer tout de suite. La Surface Duo, c'est vraiment la petite sœur, hop, j'enlève le son, qui est un peu le même concept, mais en gros, au lieu d'avoir des écrans de 9 pouces, deux écrans de 9 pouces, là, on a deux écrans de 5,6 pouces. Donc c'est vraiment une sorte d'iPad mini, version Microsoft, avec deux écrans et un clavier physique qui s'aimante dessus. Je continue de trouver ce principe de clavier physique vraiment sympa. Pour ceux qui écoutent en audio, imaginez un petit peu un design genre de Nintendo 3DS, un petit peu plus grand. Voilà, ça ressemble beaucoup à une Nintendo 3DS, mais uniquement avec des grands écrans tactiles et sur lesquels on peut rajouter aussi un clavier physique qui s'aimante et qui prend une partie de l'écran. Et le processeur, ça sera du Intel Lakefield. Alors Lakefield, je ne sais pas pour le coup si c'est de l'ARM ou pas, je crois pas. Mais a priori, ce que disait Microsoft, on va en parler juste après de Windows 10X, pardon. Microsoft disait que son système d'exploitation serait. Alors attendez, hop, je vais remettre un petit peu ma caméra. Bonjour. Le système d'exploitation, bon, on va peut-être justement en parler maintenant. Donc on va passer à, j'allais dire à la seconde news, mais en fait c'est un petit peu la suite logique. Microsoft a dévoilé Windows 10X, une version allégée et retravaillée pour faire face à iPadOS. Donc on est sur une news de Frandroid. Cette version de Windows 10, donc vraiment le point crucial à comprendre les gens, ce qui est vraiment important, c'est que c'est pas comme un Windows RT ou un Windows, c'est ce que disait Marion aussi hier, hein. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, Microsoft refait pas les mêmes erreurs. On est sur une version de Windows 10 hein, qui peut lancer des applications Win32 et tout quanti. Mais en fait, c'est juste un petit peu ce qu'est iPadOS à iOS, c'est-à-dire une version retravaillée uniquement au niveau de l'ergonomie, mais pas au niveau du moteur, pas au niveau du fin fond et du très fond du système d'exploitation. Donc je pense que c'est une très bonne chose à titre personnel. Et donc, ils ont dit que cette version de Windows 10, elle a été. Voilà, les travaux qui ont été faits sur HoloLens, Surface Hub, donc HoloLens, je crois que c'est la réalité augmentée de Microsoft, hein, et la Xbox One, tout ce qui a été bossé là-dessus ont permis de faire Windows 10X. Les éléments graphiques ont été adaptés, donc maintenant, l'idée c'est que le menu démarrer peut être un petit peu bidouillé, modifié, changer de place, voilà. Ils ont vraiment dit, on prend Windows 10, on arrête de faire la connerie d'enlever des applications compatibles. Mais on remanie l'interface pour que tout soit mieux accessible avec le doigt, avec le touch. Donc en fait, ça pourrait limite ressembler un petit peu à ce qu'a été Windows 8, mais sans brider les utilisateurs desktop, donc ceux qui utilisent leur système en version bureau normale, quoi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ah oui, alors si, point très important, très intéressant, quand un processeur ARM, donc un processeur de smartphone, lancera Windows 10X, en gros, Windows 10X sera assez intelligent pour ne pas charger les sous-systèmes, enfin en gros les composants système qui permettraient de lancer des applications Windows 32 à l'ancienne. Ce qui est pas mal, ça veut dire que d'un point de vue batterie, si vous lancez que des applis qui viennent du Windows Store ou si vous lancez juste votre navigateur web ou des choses comme ça, vous n'allez pas cramer trop de batterie. Par contre, quand vous lancerez du Windows 32, je pense qu'il doit y avoir un système d'émulation qu'ils ont dû développer pour arriver à émuler le Windows 32. Bon, je passe les détails techniques, mais en gros, je pense qu'ils ont dû faire une tambouille pour que voilà, tout soit compatible, mais quand on n'en a pas besoin, on ne le charge pas, parce que Windows 32, c'est assez certain que c'est beaucoup plus lourd que des applications juste pour smartphone et ARM, hein, ce qui est plutôt logique. Voilà. Donc c'est bien, Microsoft apprend un petit peu de ses erreurs, et c'est plutôt cool, et alors j'ai complètement oublié de le dire, mais les Microsoft Surface Duo et Neo seront sur Android. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas du tout de Windows Phone ou de trucs comme ça. Voilà. Voilà, je crois avoir fait le tour des annonces de Microsoft. C'était assez velu, il y avait pas mal de trucs. Donc, comme je l'ai dit, Marion, hier, vous avez justement un petit peu parlé de tout ça en avant-première. Mais voilà, là, c'est la confirmation de tout ce qui a été annoncé. Et si vous avez des questions sur tout ça, j'ai lu quelques articles. Donc, si vous avez des questions, après, je n'ai pas la science infuse, mais n'hésitez pas à les garder pour les CandFacts à la fin de l'émission. On va parler maintenant de Google qui va lancer une application Dictaphone. C'est truc étonnant, je croyais qu'il y en avait une sur Android. Moi, comme j'ai pas les applis Google, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Mais Google va lancer une application Dictaphone qui est déjà d'ailleurs récupérable en APK. Si vous googlez, vous chopez des articles, vous pouvez déjà l'installer. Par contre, ça ne marche qu'en anglais. Et ce Dictaphone va être un Dictaphone avec de l'IA, l'IA de Google évidemment, qui retranscrit en texte vos enregistrements. Le principe est vraiment cool. En gros, bon, bah c'est du Dictaphone. Hein. Vous avez, je sais pas, vous êtes en conférence ou vous êtes en réunion et vous lancez le dictaphone, mais l'idée c'est que tout ce que vous allez dire va être retranscrit en texte. S'il y a des événements, par exemple comme des applaudissements, comme des, alors attendez, je l'ai dans l'article, des applaudissements, de la musique ou des rires, ça va aussi s'enregistrer sur l'application, ce qui est vachement impressionnant. Et en gros, vous pourrez lancer une recherche intelligente, par exemple dire donne-moi tous les enregistrements où il y a eu des applaudissements, et a priori l'appli dictaphone sera capable de vous le faire. Voilà, donc c'est plutôt impressionnant. Alors, excusez-moi, c'est vrai que je lis pas trop le chat parce que j'essaie vraiment de faire les news assez. Voilà. Mais Guillaume FR demande pose une question intéressante. L'appli Dictaphone est-elle déjà dispo sur le Play Store? A priori, non, elle n'est pas encore dispo sur le Play Store. Mais voilà, donc là, très prochainement, elle devrait l'être. Et j'imagine bientôt compatible aussi en français. Pour l'instant, vous pouvez tester le truc en anglais, mais je trouve que c'est assez génial, parce que voilà, même si, bon, vous le savez, Google collecte des trucs et moi, j'aime pas trop, mais je continue de, voilà, d'être assez émerveillé par ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA, avec de l'analyse audio. C'est pas étonnant que Google soit capable de faire ça, parce qu'en même temps, ils ont tellement de Google Home à travers le monde et d'enregistrement audio, de retranscription, que évidemment, ils ont la puissance nécessaire pour faire tout ça. Donc c'est cool, voilà, et vous aurez bientôt ça si vous avez les applis Google sur votre smartphone, si vous avez de l'Android, c'est plutôt sympa. Il est fortement probable d'ailleurs que cette appli puisse être compatible avec iOS aussi, hein. C'est pas du tout exclu. Parlons maintenant, passons à la news suivante, de Libra. Donc Libra, petit récap, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le rendez-vous tech de Patrick Béja, et justement je crois que Jérôme est... T'es invité ou pas? Peut-être, je crois, peut-être Jérôme était invité, je sais plus. Mais j'en avais entendu parler dans le rendez-vous tech de Patrick Béja. On fait des gros bisous d'ailleurs à Patrick Béja. Et donc, il parlait un petit peu de cette crypto-monnaie de Facebook, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi. En gros, Facebook a dit, on crée une sorte de fondation qui s'appelle Libra, j'imagine, tout court aussi. Et on lance une crypto-monnaie basée sur la blockchain. Donc, a priori, c'est quelque chose de fiable. Mais le problème de Libra, il y a des news qui sont pas forcément très réjouissantes, c'est que Visa et Mastercard, eh ben, il y a de grosses possibilités qu'en fait ils s'impliquent pas dans la crypto-monnaie, ce qui était prévu à la base, hein. Donc voilà désormais plusieurs mois que la Libra a été présentée au reste du monde par la... Donc c'est une association, excusez-moi, pas une fondation. Donc c'est Facebook qui a lancé ça, ce qui, bon, peut susciter des craintes. On a vu Cambridge Analytica, moi c'est vrai qu'une crypto de Facebook, ça me rassurerait pas trop. Alors que la Libra compte des partenaires de... Quand je lis Libra, j'ai l'impression de parler d'Ibra TV, c'est terrible. Alors que la Libra compte des partenaires de taille pour le soutenir, pour la soutenir, pardon, Visa et Mastercard devraient ne pas être de la partie. Donc c'est le Wall Street Journal qui a fait un article, et c'est une source anonyme qui aurait confié aux médias américains que Visa, Mastercard et d'autres financiers stratégiques pourraient reconsidérer leur implication dans le projet de lancement de cette crypto-monnaie gérée par la Libra Association. Voilà. Voilà, et puis Bloomberg aurait aussi indiqué que deux autres partenaires seraient hésitants, et ces deux autres partenaires, c'est PayPal et Stripe. Donc pourquoi tous ces partenaires sont, voilà, potentiellement se retirent, c'est pas très étonnant. C'est du conflit de... pas forcément du conflit d'intérêts, le terme serait pas exact, mais d'un point de vue financier, avoir une crypto-monnaie qu'on puisse faire des paiements, par exemple, sans passer par le système de PayPal... Bah, ça se comprend que ça puisse leur faire peur. Pareil pour des banques, hein, qui n'ont pas forcément envie que les gens n'utilisent plus l'argent dans les banques, mais et donc leurs services, mais utilisent une crypto-monnaie. Donc moi, ça m'étonne pas. Déjà, j'étais très étonné au début que des grosses banques et des grosses entreprises comme ça puissent s'associer à Libra. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout. Et par contre, c'est pas très rassurant pour le futur de Libra. Par contre, en revanche, je continue d'être un peu déçu par le fait que, voilà, on est en 2019 et bientôt 2020 et on n'a toujours pas vraiment adopté une crypto-monnaie. On est en retard, je trouve, parce que la crypto pourrait apporter beaucoup, je trouve. Et en termes de vie privée aussi, pas mal. Alors, certains diront que oui, mais il y a des malfrats qui utilisent le Bitcoin pour, voilà, etc. Mais... Encore une fois, voilà, moi, vous le savez, j'ai une position très pro-vie privée et je considère que tous les achats que vous faites et toutes les choses comme ça ne devraient pas être tracés. Hein, le principe de tracer tous les achats de carte bleue, de machin, moi, me gêne personnellement. Pourquoi? Par exemple, ça a pu arriver, je crois que c'est arrivé aux États-Unis, à vérifier, prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais des gens qui peuvent acheter, par exemple, qui font du jardinage et qui achètent certains produits qui sont les mêmes que utilisés pour de la fabrication de bombes, eh ben, peuvent recevoir la visite de la police en mode « bonjour, machin et tout », et être suspectés et être placés sur des listes, genre fichiers S et des choses comme ça. Alors que ce sont des gens complètement innocents et encore une fois, on squeeze le juge et qui est censé justement établir l'équilibre et éviter ce genre de menaces ou d'inquiétudes. Enfin voilà, bon, c'est à détailler. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous promets une tartine sur l'importance de la vie privée et mes arguments à moi et j'essaierai aussi de poser le contre. Hein. Pourquoi? Parce qu'on peut totalement aussi avoir des arguments intéressants sur pourquoi la vie privée, non, c'est une connerie et tout le monde devrait révéler sa vie personnelle à l'État et tout ça. Et il y a des arguments qui sont pas forcément bêtes du tout. Le fameux « on n'a rien à cacher », peut-être débattu et peut-être intéressant aussi. Mais on en reparlera. Donc voilà, Libra, les news ne sont pas terribles. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il est déjà 25. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur les annonces de Microsoft. Android va bientôt vous demander de choisir un moteur de recherche par défaut. Alors, vous avez dû suivre le truc, vu que vous suivez le mug avec assiduité. En juillet 2018, la Commission européenne a infligé une amende record de 4,34 milliards d'euros à Google, lui reprochant notamment un abus de position dominante concernant les moteurs de recherche sur les smartphones Android. La firme américaine a donc dû revoir sa copie. Et maintenant, donc c'est quelque chose qui va être uniquement en Europe. Mais à partir enfin, très bientôt, les gens qui seront sur Android, vous aurez le choix du moteur de recherche. Alors, je ne sais pas si ça sera sur Chrome ou sur Android avec la petite barre de recherche où là, donc, quand vous cliquerez pour la première fois, vous choisirez. Le problème de cette annonce, c'est qu'en gros, les moteurs de recherche proposés vont être ceux qui sont les plus offrants. Donc c'est un peu à la fois bien et c'est vraiment mi-figue mi-raisin quoi. Parce qu'en gros, ceux qui paieront le plus seront affichés dans le choix. Donc pour l'instant, ça serait Google, Yahoo, Quant et Ecosia. Voilà, qui pourraient être les quatre possibilités quand ça arrivera. Bon, heureusement, il y a Quant et Ecosia, même si Quant, c'est un peu compliqué pour en ce moment. Hein, ils essuient beaucoup de critiques. Mais il y a également Ecosia, et à titre personnel, moi, je trouve que c'est toujours mieux. Je continue d'utiliser personnellement Google quand je fais du dev, du développement web, parce que je trouve que c'est les résultats de recherche les plus pertinents. Mais quand j'ai pas besoin de ça, j'utilise plutôt soit Startpage, qui est un proxy Google anonymisé, c'est pas Ecosia, c'est un autre. J'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon bref, mais en tout cas, c'est une très bonne chose de moins de proposer un peu de choix et de montrer que Google, c'est pas la seule solution. Je trouve que c'est très bien. Aux États-Unis, une news un peu marrante, mais qui montre aussi les dangers de mal sécuriser des appareils. Aux États-Unis, un panneau publicitaire piraté, enfin un panneau publicitaire a été piraté pour diffuser un film pornographique. En gros, ce sont deux personnes qui se sont introduites dans une salle de contrôle, la salle de contrôle de l'écran géant. Donc il faut imaginer, c'est un écran géant sur la droite d'une autoroute. Voilà, bon, ce que je trouve absolument débile. Bon, on est aux États-Unis et malheureusement, apparemment, c'est le cas là-bas, mais au bord des routes, peut y avoir des panneaux publicitaires. Ça se trouve, il y en a en France. Pourquoi je dis ça? Non, il y en a en France aussi. Mais je trouve ce truc complètement stupide parce que ça peut totalement déconcentrer quand on conduit. Hein, c'est pas du tout. Donc, oui, non, mais je dis une connerie, c'est pas du tout qu'aux États-Unis. Je crois en avoir déjà vu en voiture. Mais voilà, il y a des panneaux publicitaires et le panneau publicitaire a été hacké pour y diffuser justement un film pornographique. Donc bon, au-delà du fait que c'est un film pornographique, que ça c'est emmerdant si des enfants sont tombés dessus, évidemment, je trouve que faire des trucs un peu choc comme ça, c'est pas mal pour montrer aux gens que ouais, la sécurité des appareils comme ça, c'est important. Voilà. Et comme le dit une citation dans l'article, hein, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leur système peut être une cible. Et justement, l'article donne plusieurs exemples. Bon, là, on va passer rapidement parce qu'il est déjà 8h28. Mais voilà, à Bruxelles en 2015, il y a une personne qui avait affiché des images parodiques et une photo de sein sur un écran géant. Donc, je trouve que ces news sont. Enfin, pour moi, ces gens-là sont un peu des activistes, dans le sens où ils montrent que voilà, les systèmes ne sont pas protégés et qu'on peut y diffuser au calme un film pornographique. Donc voilà, je trouve que ce genre de petites actions choc, ça fait pas trop de mal aux gens. Bon, vraiment, encore une fois, si on met de côté le fait que des enfants aient pu tomber sur ces images-là, ça c'est vraiment condamnable, bien sûr, mais au-delà de ça, des fois, il faut secouer un peu les trucs pour. Pour que ça bouge, quoi. Donc, je trouve que c'est bien. Voilà. On passe à une news un peu moins fun, mais très importante, je trouve. Snowden, donc Edward Snowden, qui est, que je considère à titre personnel comme quelqu'un. J'aime pas dire héros parce que c'est un peu exagéré comme terme, mais quelqu'un de très important, qui a vraiment sacrifié sa vie, pour dénoncer des choses importantes. En gros, Snowden a écrit sur comment dire, a critiquer les médias américains parce que, en fait, beaucoup de journalistes et beaucoup de ces médias soutiennent les lanceurs d'alerte en disant c'est super important ce que vous faites, machin et tout. Mais en fait, derrière, ils font pas grand chose. Et Snowden est pas très content là-dessus. Pourquoi il a écrit ça? Parce qu'en fait, il y a une personne qui s'appelle Hale, H-A-L-E, qui a 31 ans, qui est un ancien, justement, un analyste des agences gouvernementales de renseignement, qui est prosecuted, c'est qui est poursuivi. Parce qu'il a lancé l'alerte sur un programme très controversé de drones. Donc j'imagine que ce sont des drones d'attaque. Et en gros, le problème, c'est que cette personne, donc Hale, a été accusée par rapport à l'acte d'espionnage, enfin à la loi d'espionnage, pour avoir publié des informations classifiées, alors que cette personne n'est pas un espion. Et d'ailleurs, je crois que ça a été le même problème avec Edward Snowden, c'est qu'il a été considéré comme un espion, en fait, enfin comme un traître et un espion, pour avoir publié des documents comme ça, alors que c'est pas un espion. C'est un lanceur d'alerte. Et la nuance doit être faite, parce que si on fait pas la nuance, on mélange tout. Et ces personnes-là, les lanceurs d'alerte, voilà, ne sont pas des espions. S'ils révèlent ça à un journaliste américain, ils révèlent pas ça à des gouvernements étrangers. Alors, évidemment, in fine, ces informations-là peuvent se retrouver dans les mains et se retrouvent dans les mains des gouvernements étrangers, mais le but premier n'est pas ça. Le but premier est de dire, attention, le gouvernement américain et les autres gouvernements, parce que c'est pas que eux, font des saloperies. voilà, et font des trucs souvent horribles, hein. On se rappellera par exemple de la guerre en Irak où ils avaient dit qu'il y avait des armes de destruction massive, il n'y en avait pas. Et s'il y avait eu un lanceur d'alerte à l'époque, et je pense qu'il y en a eu, mais j'ai pas suivi, mais j'imagine que s'il y avait eu plusieurs lanceurs d'alerte qui avaient dit bah non, il n'y a pas d'armes de destruction massive, voilà, bah on va pas dire que ce sont des espions. S'ils révèlent des trucs qui prouvent ça, je pense que vous comprenez un petit peu mon point de vue là-dessus. Mais en tout cas, bah voilà, Snowden qui est pas très content, le pauvre Snowden qui a vraiment. Ça doit pas être évident d'être Snowden, je pense. À la fois, ça doit être satisfaisant sur le point que t'as fait quelque chose d'utile, mais à la fois, je pense que c'est très très dur, parce que voilà, c'est quelqu'un qui doit énormément souffrir, je pense. Passons à une news moins sérieuse, plus appelesque. Il y a une rumeur dans la... Enfin, il y a une petite icône qui est apparue, donc on passe à une prochaine news, hein, à une nouvelle news. Il y a une petite icône qui est apparue dans la bêta d'iOS 13.2, qui indiquerait que il y ait une version 3 des AirPods avec de l'annulation de bruit, hein, de noise cancellation, de la réduction de bruit, pardon. Et donc cette icône, je vais vous la montrer tout de suite pour les petits curieux. Voilà, donc cette icône ressemble à ça. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est que... Bon, de toute façon, j'utilise plus d'AirPods, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que on est sur un format intra-auriculaire. Et... moi, c'est quelque chose qui me plaît à titre personnel. Moi, il y avait déjà eu un leak, donc il disait last month, donc le mois dernier, il y a eu un leak sur des AirPods. Et effectivement, au niveau du design, si on regarde un petit peu à quoi ils ressemblent, eh ben, ça ressemble pas mal à cette icône-là. Donc, il serait de plus en plus probable que les prochaines versions d'AirPods aient de la réduction de bruit, donc active, j'imagine, pas juste physique, et qu'on ait et voilà, et qu'on ait ces AirPods en version 3 avec un boîtier peut-être plus large, apparemment. Ce qui m'étonnerait quand même, c'est pas très Apple de faire un boîtier plus large. Après, il est plus large, mais il est moins épais, enfin moins haut. Donc bon, à voir un petit peu ce que ça donne, mais tic-tic-tic. Et apparemment, le mode donc, d'écoute, le mode de réduction de bruit s'appellerait le Focus Mode. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. On passe à une news toujours un peu Apple avec l'iPhone 11, la fonction Deep Fusion qui est disponible en version bêta. Donc si vous êtes un aventurier et que vous avez les versions bêta de vos iPhones, vous pouvez tester dès à présent la Deep Fusion qui est une fonction, je vais remettre ma caméra, hop, qui est une fonction qui combine plusieurs photos différentes prises avant et après avoir appuyé sur le déclencheur et ce qui va améliorer considérablement les performances de l'appareil. Donc à tester. Pour l'instant, c'est juste, voilà, c'est en bêta, vous pouvez aller le tester. Et d'ailleurs, si des gens sur Twitter, le Twitter de Nowtech, peuvent faire des premiers retours, des aventuriers, eh bien, on serait très curieux de savoir ce que ça donne, parce que moi, je continue de vraiment suivre, même si j'ai plus d'iPhone, je continue de suivre un petit peu toutes les améliorations photo, parce que je trouve ça super intéressant. Voilà. Et on termine avec une news, et là, enfin, bordel, enfin, hein, comme dirait... comme dirait, non, j'ai rien de. J'ai pas de. Comment dire, de bruit sympa. Si, si, enfin!
Oui,
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 oh,
ça c'est beau,
ça
ça
c'est
c'est
beau.
beau.
Voilà, ça c'est beau. Parce que, enfin, sur Instagram, il y a une option pour restreindre, en fait, pour rendre muet les gens qui harcèlent. C'était vraiment, pour moi, c'est un des principaux problèmes des réseaux sociaux. C'est que, il n'y a pas forcément d'option bien faite pour. Enfin, si sur Twitter ça va. Mais en gros, sur Instagram, il n'y avait pas d'option pour masquer une personne qui avait tendance à poster des messages et surtout la masquer à son insu. C'est ça qui est très important. Je trouve que c'est une des méthodes les plus efficaces pour le harcèlement. En gros, vous cliquez sur un profil, vous avez ça sur YouTube. Et sur YouTube, ça, c'est plutôt cool. Quoi qu'il y a, oui, il y a ça sur YouTube, on peut masquer, que je dise pas de conneries, je crois. Voilà. Et donc, sur Instagram, il va y avoir cette fonctionnalité-là. Le principe, c'est que vous avez une personne qui est. Un relou ou une relou, vous cliquez sur son profil et vous faites restreindre. Et cette personne, en fait, quand elle va poster des commentaires sur votre profil ou vous envoyer des messages, en fait, elle va avoir l'impression que ça fonctionne, mais vous, vous les verrez pas. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et vos abonnés, a priori, ne les verront pas. Voilà. Donc, comment ça marche? Alors, bon, l'image est toute petite, je vais essayer de vous zoomer un petit peu si ça va. L'image, si je zoome, ça va, on le voit. Donc en gros, ça ressemblera à ça. Vous aurez une personne qui, voilà, qui dit la div you are a stupid loser, hate you. Donc vous pouvez restreindre cette personne. Voilà, et ils disent ça vous protège des interactions non voulues. Uniquement vous et DivDix pourrez voir les nouveaux commentaires et ils vous verront pas quand vous serez en ligne. Voilà, et a priori, donc ça continuera d'afficher quelque chose, mais juste ça mettra commentaire restreint. Bon, moi je trouve que ça devrait plus rien afficher du tout, a priori, je trouve que ça serait une meilleure solution. Mais donc les abonnés ne verront plus la chose et c'est quelque. Enfin, moi je trouve que c'était vraiment voilà, nécessaire. Avant de passer à ma tartine, on va parler du sponsor de l'émission. Vous le savez, l'émission est sponsorisée par Shadow. Donc on RPZ un petit peu avec. Non, c'est ce côté-là, avec la veste. Voilà, le petit Shadow Partner. Quand j'étais encore vidéaste, c'est vrai que j'avais fait comment dire, un petit truc sponsorisé avec eux et c'était très cool. Donc là, c'est l'émission qui est sponsorisée. Vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, il faut que vous alliez sur Twitter. Vous suivez le Twitter Shadow-du-bas France. Vous postez un tweet en disant je veux gagner un Modiez Shadow PC avec Modiez le mug Nowtech. Donc hashtag hein, Modiez. Mais j'aime bien dire Modiez, je sais qu'il y a des gens que ça fait rager et j'aime bien. Donc vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer à votre jeu ou votre logiciel, hein, pour utiliser un logiciel, machin et tout. Donc vous pouvez mettre Borderlands 3, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc vous postez ça. Et le vendredi, donc demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et très important, je le dis à chaque fois, les abonnés Shadow, vous pouvez jouer aussi. Par contre, si vous gagnez, ça ne vous rajoutera pas un mois gratuit, ça vous rajoutera pas un mois gratuit dans Shadow. Voilà, mais ça vous permet de partager ce code à quelqu'un d'autre et de permettre à quelqu'un de tester tout ça. Et maintenant, on va passer à ma tartine. C'est parti. Et c'est parfait parce que j'ai pu me moucher discrètement pendant. Putain, en plus, on voit que j'ai le nez un peu rougeau. J'ai pu me moucher discrètement pendant la transition, donc c'est très bien. À partir de maintenant, vous le savez dans l'émission, je vais beaucoup plus regarder vos messages. Donc j'avais justement prévu la petite fenêtre du chat. Et donc c'est très cool. Alors, Yves Castel. Donc évidemment, gardez les questions un peu, on va dire, générales pour les CanFac. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, Serge, tu disais la longueur des AirPods est réduite. Ok, la longueur des AirPods sera réduite. C'est vrai que j'ai pas forcément fait attention à ça. Donc gardez vos questions un petit peu plus. Ouais, Techni, merci pour ton super chat. Gardez les questions un petit peu pour les CanFacts. Là, je vais justement vous parler de ma tartine. Et pour cette tartine, on va parler. Alors attendez, je vais juste. Voilà, mettre ça là-bas. Et pour ma tartine, on va parler de 10 chaînes YouTube. J'avais envie de pas faire trop de vie privée, parce que c'est vrai que les précédentes émissions, les précédents mugs, j'avais beaucoup parlé de ça et tout. Là, on va lâcher un petit peu du lest, on va se reposer un petit peu, et je vais vous partager 10 chaînes YouTube que je regarde pas mal en ce moment, qui sont des chaînes, je pense, pour la majorité, vous n'en avez pas entendu parler, c'est vraiment, il y a un peu de tout, il y a des chaînes françaises ou francophones, il y a des chaînes qui sont anglophone. Il y a des émissions qui parlent de rhétorique, il y a des choses comme ça. Oui, on est sur un top 10, c'est ça. Mais je le dis pas. J'ai juste dit c'est les 10 chaînes YouTube. Et après, si toi tu veux un top 10, pour moi c'est pas un top parce que je ne fais pas de tri. Et oui, Léo Techmaker, il faut écrire un mot dièse en toutes lettres, c'est très important. Non, évidemment, c'est le petit dièse. J'espère qu'il y a El Pueblo. Je connais pas El Pueblo pour le coup. Donc voilà, j'avais envie de vous partager dans cette tartine 10 chaînes YouTube que j'apprécie beaucoup. Et même, il y a un petit truc bonus, il n'y a pas que 10 chaînes YouTube, il y a une 11e émission. Normalement, dites-moi si vous le voyez bien, mais dans la description, j'ai mis tout en bas de la description, vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, les liens vers ces chaînes YouTube. Donc vous pouvez dès à présent aller voir tout ça. Top 10. Tac, tac, tac. Bref, bref. Donc on va attaquer tout de suite. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais pas mettre le son, parce que j'ai pas envie que Nowtech Live se fasse striker ou emmerder là-dessus. On va mettre juste la vidéo et on va commencer avec une première chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Alors normalement, ouais, vous n'entendez pas le son. De toute façon, vous n'entendez pas le son, donc je suis pas. Voilà, il n'y aura pas trop de soucis comment dire, de copyright. Donc la première chaîne que j'avais envie de vous partager, en fait, c'est pas vraiment une chaîne, mais c'est plus une émission sur une chaîne. Et donc je vais vous mettre, voilà, ça. C'est Click.tv, enfin, Click TV. Donc Click, c'est une émission de Canal+ à la base. Et moi, je me suis surpris à regarder beaucoup la chronique de Clément Viktorovitch. Bon, là, c'est un peu, on est teinté un petit peu, c'est un peu politique, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que il parle de rhétorique. Il y a deux youtubeurs dont je vais vous parler qui parlent de rhétorique. C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup en ce moment. Et en gros, c'est une émission où donc Clément Viktorovitch, qui est un professeur de rhétorique à l'université, va analyser les comment dire les ah c'est pas les mots de langage, c'est les façons de parler des politiques, mais pas que, pour essayer de déceler un petit peu les techniques de langage et souvent les petites arnaques mentales, dans le sens où quand il y a trop d'hyperbole ou quand il y a trop d'anaphore, quand il y a trop de choses comme ça, trop de façons de parler qui ont tendance à noyer le poisson. Et ben justement, Clément Viktorovitch va décortiquer tout ça. Et moi, je trouve ça super intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue politique, bon, Click TV, on est quand même, voilà, très teinté un petit peu à gauche, on va pas se mentir. Mais en général, il essaie quand même de prendre des gens qui sont déjà au gouvernement, donc c'est La République En Marche. Des fois, il va prendre des gens qui sont du FN, des fois, il va prendre des gens de gauche. Donc, c'est assez varié. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette chronique. Moi, je trouve ça super intéressant. Ça dure pas longtemps. Il y a 15 épisodes pour le moment. Et voilà, alors après, évidemment, on a le droit de pas du tout être d'accord avec ce que dit Clément Viktorovitch. Mais honnêtement, moi, je trouve ça super intéressant. Voilà, on peut pas lui nier qu'il y a au moins un minimum de travail pour analyser les éléments de langage. Voilà, putain, c'est le mot que je cherchais. Donc, les sophismes, les éléments de langage, tout à fait. Quand tu regardes des chaînes de zététique, après, tu sais que 99% des politiques en utilisent au quotidien. Exactement, Vaya. Et c'est un truc qui est un peu fatigant, justement, c'est qu'en fait, avec ces émissions-là, c'est vrai, t'as raison, hein, Vaya, c'est qu'on se rend compte que les hommes et les femmes politiques utilisent des éléments de langage tout le temps et beaucoup de sophismes. Celui qui l'analyse à un certain moment, Clément Viktorovitch, c'est la pente glissante, qui je trouve est un sophisme super intéressant. Le principe de la pente glissante, il y a un exemple avec Sarkozy, c'est que, en gros, pour condamner quelque chose, on va prendre un exemple qui pourrait se passer éventuellement dans le futur, mais qui s'est pas encore passé. En gros, il y avait cet exemple avec les paquets de cigarettes qui sont devenus neutres. Et Sarkozy, pour critiquer cette mesure, disait: mais imaginez, là aujourd'hui c'est les paquets de cigarettes neutres, mais qui vous dit pas que dans le futur ça sera les bouteilles de vin neutres, etc., etc. En fait, la pente glissante, c'est de prendre un exemple complètement abusé pour critiquer quelque chose qui est pas forcément, qui n'a pas forcément de rapport. Il y avait la même chose avec le mariage homosexuel, où les gens disaient: ah ben regardez, si on autorise aujourd'hui le mariage homosexuel, dans 10 ans on autorisera le mariage avec des animaux, etc. C'est cette logique-là qui est fallacieuse, parce qu'il n'y a pas forcément de rapport entre les deux choses. Mais on donne l'impression qu'il y a un rapport. Bref, je vous invite à aller voir cette chronique, moi je la trouve super intéressante. Voilà. Ensuite, deuxième chaîne YouTube, c'est Adam Neely. Adam Neely, pardon, c'est un gars qui fait de la musique, c'est un musicien, c'est un bassiste, qui parle, hop, voilà, qui parle de musique. Voilà, je vous remonte sa chaîne, de façon assez poussée. Moi, la vidéo que je vous invite à regarder, c'est celle-là. Alors, Je commence à me mettre beaucoup à la musique en ce moment. Je fais merci Arnaud, c'est cool. Un pourboire pour un mouchoir. Ouais, merci. Je suis désolé, j'ai vraiment la crève. Oui, toutes les chaînes sont dans la description déjà, Pierre-Yves. Voilà. Ouais, bah par exemple, tu vois, pente glissante, t'as totalement raison. L'argument de la pente glissante, c'est de dire si on légalise le cannabis, les gens vont prendre de la coke et de l'héroïne. Voilà. C'est des choses qui peuvent donner l'impression d'avoir un rapport, mais en fait, non. Je pense que pour une majorité de personnes qui fument du cannabis, ils vont pas, parce qu'on le légalise ou machin, ils vont pas tout de suite, ou parce qu'on l'interdirait plus fort, ils vont pas se mettre à fumer de la coke, enfin à fumer, à sniffer de la coke, ou autre drogue plus dure. En fait, ça donne l'impression qu'il y a un rapport, mais il n'y en a pas forcément. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça permet de faire un petit peu travailler comment dire, sa rhétorique. Donc Adam Neely, lui, il parle de musique, et s'il y a une vidéo que je vous invite vraiment à regarder, je trouve que celle-là, les 7 niveaux d'harmonie de jazz, est vraiment intéressante. Alors, je dirais que pour regarder sa chaîne, il faut pas forcément. Moi, j'ai pas un gros background en théorie musicale. Si vous avez fait de la musique, cette chaîne vous aimerez énormément parce que vraiment c'est génial. Il met de l'humour, il est très dans le YouTube jeu, il est très très dynamique, il est très très YouTube game, donc il le fait vraiment très très bien. Et là, en fait, cette vidéo, par exemple, il prend une personne, enfin un morceau qui est super connu qui s'appelle Juice de Lizzo, et en gros il complexifie le morceau au fur et à mesure, donc il parle de ça. Moi, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que bah, encore une fois, comme je me suis mis un petit peu au ukulélé, puis là en ce moment à la guitare, voilà, maintenant j'arrive un peu plus à lire les notes, hein. Bon, c'est la version anglophone des notes, hein, F, C, machin et tout, C c'est Do, mais c'est vraiment une chaîne que je vous recommande si vous êtes un petit peu fan de musique et de théorie musicale, et encore une fois, même si vous n'êtes pas très fan, ça reste intéressant. Voilà. On passe à la troisième chaîne. Il est quelle heure? Il est 46, ça va, on a le temps. La troisième chaîne, on va parler jeux vidéo maintenant. La troisième chaîne s'appelle Summoning Salt, donc l'invocation du sel. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est baisser juste un peu mon volet parce que je me rends compte que je suis très blanc. Voilà. Donc on va baisser un tout petit peu la luminosité parce que sinon c'est vrai que. Voilà, je suis très 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 blanc. Voilà. Ah, c'est décalé pour moi le son. Bah c'est bizarre. Je pense que ça vient de toi, Vaya. Moi, j'ai pas fait quelque chose de particulier. Donc, Summoning Salt, c'est une chaîne YouTube que j'aime énormément parce que c'est vraiment plus des reportages, émissions. Et en gros, pour ceux qui aiment donc les jeux vidéo déjà, mais pour ceux qui aiment le speedrun, cette pratique qui consiste à finir les jeux le plus vite possible, vous allez surkiffer cette chaîne YouTube. En gros, le principe, c'est que cette personne fait une, comment dire, une émission, oui, on peut dire une émission, sur un documentaire, voilà, je cherchais le mot, un documentaire sur les améliorations des speedruns sur certains terrains ou certains jeux. Et au fur et à mesure, pour montrer comment les speedrunners, donc les personnes qui font des speedruns, ont amélioré le record du monde à chaque fois. Et donc, dans cette vidéo, qui est moi ma préférée parce que j'adore Mario Kart, dans cette vidéo, en fait, il montre comment les speedrunners, petit à petit, et sur chaque Mario Kart, ont amélioré le record du monde, et à quelles techniques ils ont utilisées, comment ils les ont découvertes, etc., etc. Et cette vidéo est super intéressante, notamment pour. Alors, je crois. Alors, est-ce que c'était celle-là? Ou une des plus intéressantes, c'était. Mario Kart 64. Il y avait celle-là, mais c'était avec Chocolate. Ah, je la retrouve pas. Ouais, voilà, c'est celle-là. Choco Mountain, qui est un circuit de Mario Kart 64, et il montre comment le record du monde sur ce terrain a été amélioré au fur et à mesure. Celle-là, je la trouve vraiment, vraiment cool, cette vidéo. Et encore une fois, je vous invite vraiment. Crash Team Racing Master Race. Ouais, non, mais moi aussi, je préfère Crash Team Racing, mais. J'adore Mario Kart, enfin, j'ai tellement joué à Mario Kart que voilà. Donc cette chaîne est trop cool et vraiment, si vous avez un petit peu de temps, parce que c'est quand même des grosses vidéos, hein, ça dure au moins 20 minutes, mais voilà, là on voit comment ils optimisent des trucs. Enfin, moi, je trouve ça très 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 passionnant à regarder et il a une voix très calme en plus, ça change un petit peu, comment dire, bah, du YouTube jeu où les voix peuvent être très, tatatata, très, très agressives. Là, c'est pas la même chose. On passe à une de mes chaînes préférées. Très PewDiePie-esque, mais avec de la basse. Donc, encore une fois, moi j'aime beaucoup, beaucoup la musique. Et la basse est mon instrument préféré. J'en joue pas, mais c'est mon instrument préféré. Et Davy504, c'est un YouTuber qui a fait beaucoup, beaucoup de vidéos où il jouait de la basse sur des trucs un peu compliqués. Il a fait des mèmes, il a fait des choses comme ça. Mais là, il est dans un délire très PewDiePie, très humour. Il est très doué, je trouve, là-dedans. Mais. Mais surtout, qu'est-ce que je voulais dire? En ce moment, il a un côté que j'aime beaucoup, c'est qu'il a tendance à... il a une sorte de petit concept qui est assez cool, c'est qu'il va sur Fiverr, donc c'est cette vidéo-là. Il va sur Fiverr et... je vous mets la vidéo en boucle. Et il va demander à des gens... Donc Fiverr, c'est un site où en gros, vous pouvez demander pour un prix à des gens de faire des actions. Et il demande à des bassistes de jouer des lignes de basse, des lignes de basse très difficiles, et il analyse ça en vidéo. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce concept, je trouve ça très intéressant, enfin, très rigolo. Et encore une fois, ce mec, il a beaucoup d'humour, et moi, j'aime beaucoup. Et puis la basse, c'est encore une fois mon instrument préféré. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. On passe, oui, vous avez mon Google Docs, je sais, mais revenir sur la caméra à chaque fois, c'est un petit peu long. Donc, on va faire comme ça. Ma chaîne préférée jeux vidéo, c'est Monsieur Plouf. Monsieur Plouf, c'est en plus un pote à moi, donc je le connais assez bien. J'avais fait sur mon Instagram des photos de Monsieur Plouf, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou sur mon site web, hein, guillaume/.fr. Et en gros, Monsieur Plouf, il a une chronique, où en gros, c'est de la critique de jeux vidéo, mais c'est de la critique très sincère. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est que Monsieur Plouf n'est jamais sponsorisé par quoi que ce soit. Il n'a jamais fait une seule vidéo sponsorisée. Il est vraiment en mode full indépendance avec son Tipeee. Et il a fait par exemple une de mes vidéos préférées, c'est sa chronique justement sur Link's Awakening, que je vous invite vraiment à regarder. En plus, il a fait une petite collab avec un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Chiniz, qui fait de l'humour noir. Monsieur Plouf, il a un design très simpliste, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permet à la fois d'ajouter une petite touche d'humour parce qu'il y a toujours des petites choses cachées dans ses, comment dire, dans ses vidéos et ça permet aussi de se concentrer sur le propos. Donc, encore une fois, Monsieur Plouf, c'est vachement cool. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je sais quand j'avais découvert sa chaîne, j'avais refait toutes les chroniques d'un coup, quasiment, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Une chaîne qui parle de santé avec un point de vue très éclairé, ça s'appelle Primum Non Nocere, qui est une devise. Non, je veux pas comme ça. Non! Ah, ça a tout mis en pagaille. Non, c'est bon. Non, oui, si, comme ça, voilà. Donc, Primum Non Nocere, qui veut dire la règle la plus importante, c'est de ne pas nuire. Enfin, le plus important, c'est de ne pas nuire. C'est une devise de médecin. En fait, il parle, voilà, comment dire, quand il y a des idées reçues, il va aller débunker tout ça, il va aller en parler. Je trouve qu'il fait vraiment des vidéos très intéressantes et très sérieuses surtout. Il parle de maladies, par exemple la rubéole, les oreillons et tout ça. Et il en parle bah, de façon sérieuse, mais avec un... Voilà, il est assez dynamique. Ça reste très sérieux comme chaîne, c'est pas très humour, c'est pas très humoristique, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette chaîne et je vous invite à aller la voir si vous ne connaissiez pas. Et il répond aussi à quelques petites questions peut-être auxquelles vous n'aviez pas la réponse. Pourquoi on est essoufflé, le VIH versus le sida, quelle est la différence, etc. etc. On passe à The Consoles. Donc là, c'est une chaîne musicale. C'est pas vraiment une chaîne qu'on va aller regarder comme ça, mais ils sont sur Spotify et sur iTunes, Apple Music et tout ça. Et en gros, ils font des reprises de musique de jeux vidéo. Et c'est vachement cool. Alors, je peux pas malheureusement vous mettre un thème là parce que bah, j'ai encore une fois pas envie que Nowtech Live se fasse striker et voilà. Mais allez sur leur chaîne et regardez un petit peu si vous avez des musiques de jeux vidéo que vous aimez bien. Il y a 90% de chances qu'il y ait une reprise qu'ils aient fait. C'est très jazzy, c'est très chill, très relax. Et encore une fois, ils sont sur Spotify, ils sont sur Apple Music, sur. Amazon Music, j'en sais rien, mais sur Deezer peut-être. Voilà. Mais moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et voilà. Continuons sur de la rhétorique avec Victor Ferry, qui est une petite chaîne qui s'est fait connaître assez récemment. Je l'ai eu dans mes recommandations. Et c'est vrai qu'il a bien explosé récemment, Victor Ferry. Donc, alors, pour le coup, je ne sais pas s'il est professeur. Non, pour le coup, il est juste. Je pense que c'est juste peut-être un chercheur, je ne sais pas. Mais en gros, il parle de rhétorique et il a un peu la même analyse que. Donc là, par exemple, il parlait de Mélenchon et du fait que. Et qu'après la campagne présidentielle, ça a été un peu compliqué pour lui. Donc, il analyse un petit peu tout ça. Il analyse pas mal de personnalités politiques en essayant, pareil, de décrypter les éléments de langage, de décrypter un petit peu, et surtout de parler un petit peu de leur rhétorique, de la communication. C'est un peu dans la même veine que Clément Viktorovitch, mais sur un format un peu différent, souvent un peu plus long. Parce que là, voilà, la vidéo dure plus de 10 minutes. Il y a Clément Viktorovitch, ça dure plus 3-4 minutes, quoi. Donc voilà, pareil, c'est une chaîne, je la trouve très intéressante, n'hésitez pas à aller voir. Le meilleur youtubeur musique, c'est PV Nova. Moi, j'accroche pas trop à PV Nova, tu vois. Je suis pas très très fan. Une chaîne très peu connue, mais très bien, ça s'appelle Calmos. Et Calmos parle de comédie française, donc c'est assez, assez original au final. Calmos a notamment fait des vidéos sur des films français très très connus, hein, ou sur des acteurs très connus. Donc par exemple Gérard Depardieu, Louis de Funès, il a fait une vidéo sur La Cité de la Peur. Et il décrypte en fait pourquoi soit ces acteurs-là, ou actrices, ou comédies fonctionnent. Et qu'est-ce on va dire dans quelle mesure elles s'inscrivent dans un contexte en France. Et notamment, il a fait ça sur Les Bronzés. Il explique pourquoi Les Bronzés a beaucoup fonctionné, a bien fonctionné. Et notamment parce que Les Bronzés s'inscrivent pile au bon moment. À l'époque où voilà, il y avait de la libération sexuelle chez les Français, les campings, des choses comme ça. Enfin, c'est une chaîne que je vous invite à regarder. Elle est super bien. Et c'est des sortes de, voilà, de mini-émissions, mini-documentaires sur de la comédie française. Et en plus, il y a un parti pris graphique que j'aime beaucoup, donc c'est très sympa. Et on va terminer avec mon podcast préféré que j'écoute, mais des heures et des heures et des heures depuis cet été, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est 2 heures de perdu, qui est une émission qui est en podcast sur iTunes, Spotify, etc. Et en gros, c'est une émission où c'est en général à peu près 5 chroniqueurs. Le principal s'appelle Antoine. Il y a Antoine, Julie, Sarah, Michael et Greg, je crois. Voilà, en général, c'est les 5 principaux. Et en gros, il regarde un film avant l'émission et il le décrypte, il le critique. Mais c'est très drôle, vraiment, c'est très très drôle. Il y a un très très bon feeling sur le plateau d'enregistrement. C'est très bon enfant. Je vais remettre ma caméra, je viens de penser que j'ai pas ma caméra. C'est très bon enfant. C'est voilà, c'est leurs émissions notamment sur les Harry Potter, moi, me font pleurer de rire. Donc je vous invite vraiment à aller écouter 2 heures de perdu quand vous avez 2 heures à perdre. Eh bien, vous ne les perdrez plus avec ce podcast que voilà, moi j'aime beaucoup. Donc on a fait le tour de ma tartine. J'espère que vous aurez découvert des chaînes et des émissions intéressantes. J'essaie de vraiment mettre des trucs pas trop connus, hein, histoire de bah, vous faire découvrir des trucs. Et on va passer maintenant au corn fuck. Les confacts, donc comme vous le savez, c'est la dernière rubrique de l'émission. Ça, je viens de me moucher, j'ai la tête dans le coltard, c'est terrible. Donc vous pouvez me poser n'importe quelle question, ce que vous voulez. Donc j'espère que vous avez gardé. Merci Guillaume qui dit jolie photo sur ton site Guillaume Slash. Ben, merci à toi, je suis content que ça te plaise. Faut que j'en rajoute d'ailleurs, j'en ai fait pas mal d'autres et je les ai pas encore rajoutés. D'ailleurs le site web, ça c'est un truc assez cool. Il a été fait pour ceux qui ont un abonnement ou Adobe, comme on dit en anglais. Il a été fait avec justement, si vous avez un abonnement Lightroom, enfin n'importe quel abonnement en fait sur Adobe, vous avez en gros la possibilité de faire un site web en quelques clics. Ça marche super bien, vous pouvez connecter ça avec un nom de domaine et je trouve ça génial pour faire un petit site vitrine de photos. C'est trop trop cool. Voilà, merci Samuel pour le partage du site, c'est cool. Un conseil de Vaya pour soigner ton rhume. Ah, t'as écrit non, mais un rhume, faut juste se moucher quoi. Enfin, c'est tout, ça va passer, c'est pas grave. Sympa la tartine, merci beaucoup. Ben, merci à toi Guillaume d'avoir été là. Un rhume passe tout seul, faut juste soulager les symptômes. Si vraiment... Non, mais après ça va, je suis pas mal. C'est juste pour l'émission, c'est chiant parce que bah vous vous infligez des reniflements. C'est pas terrible quoi, j'ai envie de dire.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
Voilà, bah je suis pas venu ici pour souffrir et vous non plus. Donc voilà. Mais bon, pourquoi tu portes un casque? Alors c'est une question que je me suis posée avant. En fait, je sais pas, j'aime bien. Ça me met dans un petit cocon de stream, j'aime beaucoup. Et puis quand je vous balance des sons, bah, je les entends aussi, tu vois. Donc c'est voilà, parce que faut vraiment pas oublier que
bien manger, c'est important.
Bah ouais, c'est super important. Et là, quand je mets le son, tu vois, bah, je l'entends dans le casque. Donc bon, après j'ai pas souvent, j'essaye de pas trop abuser sur les sons parce que enfin, si je m'écoutais, j'en mettrais tout le temps. Mais voilà, voilà. Oui, il y a un jeudi VIP ce soir pour ceux qui sont tipeurs. Donc n'hésitez pas à aller tiper Nowtech pour soutenir eh bien la chaîne. Voilà. Guillaume, as-tu essayé Call of Duty mobile? C'est une tuerie. Non, j'ai pas du tout essayé. Pour le coup, moi, sur mobile, je joue très peu. Et en fait, j'essaye un peu dans ma démarche de réduire mon utilisation du téléphone, de justement enlever un peu les divertissements. Le seul divertissement, entre guillemets, que je me laisse sur le téléphone, c'est Reddit. Et un peu YouTube de temps en temps. Mais en gros, si tu veux, j'essaie vraiment de me motiver à plus lire. à plus me déconnecter du téléphone et le garder comme un appareil qui me permet de prendre des photos et d'écouter de la musique. Pour moi, c'est mes principales utilisations. Et bien sûr, la messagerie, les appels et tout. Ben voilà. Tac, tac, tac. C'est pas le commentateur, mais le format que je valide pas du tout. Tu parles de quoi, Dan Bala? Je suis curieux. Si tu parles de l'émission, après, je peux comprendre. C'est vrai que le format a un peu changé, donc ça peut totalement se comprendre. Vous êtes excité par. Je préfère traduire GameFR, tu m'excuseras. Vous êtes excité par la Surface Laptop, Surface Pro 7, Pro X, Neo Duo? Oui, c'est une bonne question d'ailleurs, les gens. Donc j'ai parlé des Surfaces au début de l'émission. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qu'a annoncé Microsoft? Déjà, est-ce que vous avez une Surface? Est-ce que vous en êtes content ou pas? Je sais que les Surfaces ont beaucoup de problèmes. J'ai lu beaucoup de soucis sur le. Sur le tout ce qui est. Comment on appelle ça? Oh, je sens la fatigue là. J'allais dire service après-vente, mais c'est pas ça, mais durabilité. La Surface Pro, Surface, oui, Pro 4 a beaucoup de soucis d'écran qui clignote et de choses comme ça. Donc, dites-nous un petit peu dans le chat, ça peut être intéressant. Ça a trop changé. Pas de soucis, Danmala, je peux comprendre. Totalement. Et ben, j'espère que peut-être tu reviendras d'ici un mois et que ça te replaira un peu. Mais je comprends, le changement, voilà, ben, le changement, ça peut gêner des gens. Et c'est vrai que l'émission pendant 20 minutes est beaucoup plus moins en échange avec la chatroom. Mais c'est une bonne chose, je trouve. Moi, je me rends compte que c'est une émission que je préfère aujourd'hui, alors qu'on est à la 15e. Je préfère le mug à Texcope parce que même si j'aimais bien le côté très familier, Texcope, si tu le regardais pas en live, tu pouvais plus le regarder. Je trouvais que c'était pas agréable à écouter en replay. Alors que le mug, je peux vraiment écouter les 20-30 premières minutes du Kawa et ça me va très bien. Et en général, je fais ça et j'écoute plus la suite après. Sauf si je suis en live, bien sûr. J'ai une vieille Surface 3, les Surface Duo et Neo m'intéressent. Ok. Guillaume, je ne connaissais pas ta chaîne YouTube. Que présentais-tu? Nicolas, je faisais un peu comme les YouTubeurs tech classiques. Je parlais de tests de smartphone. Je m'étais fait connaître en parlant d'applications mobiles à la base. C'était vraiment le truc qui me faisait plaisir. Mais quand j'ai fait le tour des applications mobiles, après, je suis plus devenu YouTuber tech classico. Perso, j'ai la Surface 1 avec Windows RT. J'ai zéro souci dû au modèle, sauf la restriction de RT, bien sûr. Ouais. Bon, après, ça te fait une tablette sympa pour du Netflix, pour des choses comme ça. Hein, c'est pas plus mal. Surface Pro 3 depuis sa sortie, aucun souci. Ok. Excellent code mobile. Bon, si plein de gens disent qu'il est bien, bon, j'irai peut-être essayer. Après, il faut voir parce que, par exemple, hein, moi, j'ai donc un Android, il n'y a pas les services de Google. Et ben, je ne peux pas jouer à Mario Kart Tour. J'ai essayé de l'installer sur le téléphone, j'ai pas pu, donc je l'ai mis sur l'iPad. Mais Mario Kart Tour n'est pas compatible. Enfin, en gros, quand je le lance, il n'arrive pas à se connecter à mon compte Nintendo, il n'arrive pas à faire le lien. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les services de Google dessus. Donc, à voir, ça se trouve que Call of Duty Mobile ne marchera pas. Mais bon, j'essaierai par curiosité, mais. Peut-être sur l'iPad au pire, parce que l'iPad je le laisse chez moi en général, je le prends pas trop. Donc ça me fait vraiment un appareil un peu chez moi, quoi. Voilà, tu restes pour les 20 minutes, après je décroche et avant tu écoutais les sujets, ça te permettait de t'ouvrir un nouveau sujet. Ok, je comprends Danbala. Je comprends. Moi encore une fois, bah, l'émission me plaît plus comme ça, mais j'entends parfaitement ta critique. Microsoft revient du néant, il remonte, il innove, j'aime beaucoup les néants. Très bien. J'adore ta chaîne à ses débuts, Guillaume. J'avais arrêté de suivre parce que ton contenu avait changé. J'adore ta version du mug. J'ai l'impression de retrouver le Guillaume du début. Ben, c'est gentil, Whale Death. Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Tac, tac, tac. Bon, on va pas tarder à arrêter parce que je vois qu'il n'y a pas forcément trop de questions. J'adore les animations. Eh ben, merci à toi, Dan Bala. Et merci d'avoir exprimé ton opinion de façon sympa et calme parce que ben, voilà, il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus. Agressif avec le changement, donc merci à toi de l'avoir exposé de façon sympathique. Parce qu'encore une fois, chez Nowtech, on est totalement ouvert à la critique, bien, enfin même, on l'encourage. Juste par contre, ce qu'on n'encourage pas, c'est les insultes, les agressions et la critique violente. Voilà. Mais ce qui est normal, hein, c'est humain. Enfin, j'imagine que vous baladez dans la rue, vous n'avez pas envie d'avoir une personne qui vous dit « Ah, tu t'es mal coiffé aujourd'hui !» Ben, voilà, c'est le même genre d'idée. Donc on est comme ça. J'avais décroché à Texcope et j'adhère à 3000%. Eh bien, merci Olivier pour ton retour. Ton framework web préféré, Vue.js, sans aucune hésitation. Voilà. Bon, eh bien, les gens, je vous fais des gros bisous. On va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on a. Je regarde un petit peu si j'ai pas un petit son à vous mettre. Non, je vais juste vous rappeler que.
Bien manger, c'est important.
Voilà, bien manger, c'est important. Et donc, bah, je vais vous faire de gros bisous. Hein. J'espère que ce mug numéro 15 vous aura plu. Moi, c'était toujours un plaisir de le faire. Voilà, les lives, j'adore ça. Si on enlève le rhume et si on enlève la fatigue, ben, c'était très cool et j'étais très content de vous avoir. Je vous le rappelle, vous pouvez soutenir la chaîne Nowtech principale en tipant. C'est le meilleur moyen de soutenir parce que ben, ça permet en fait d'avoir une somme fixe tous les mois et Jérôme peut faire ben, du... C'est con, mais faire du prévisionnel là-dessus, c'est quand même beaucoup mieux que des dons ponctuels. Mais on vous remercie aussi pour vos dons ponctuels, ça aide beaucoup la chaîne. Tous ces dons-là servent à payer les salaires, donc à payer votre humble serviteur, mais aussi à payer Karina et Hugo et toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne. En fait, il n'y a pas que nous trois. Donc voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous et puis ce jeudi-là à 18h, je crois, si je dis pas de conneries, vous pourrez retrouver le jeudi VIP. Donc, et si vous êtes un tipeur VIP, vous pourrez justement voir, j'imagine que ça sera Jérôme en live. Donc c'est des lives très beaucoup plus intimistes où vous pourrez poser des questions de façon beaucoup plus voilà, beaucoup plus proche et des comme ça. Bah, si vous avez des interrogations et que vous voulez une réponse, eh ben vous pouvez le demander à Jérôme et voilà. Et j'imagine par exemple des conseils caméra, des choses comme ça. Eh ben, c'est ce genre de live est fait pour ça. Voilà. J'espère Jérôme que j'ai pas dit de bêtises. Au pire, sinon tu m'enverras un SMS virulent. Bah. Non, je déconne. Bon, allez, des bisous. Oui, c'est bien 18h. Voilà. Des bisous les gens. Merci à tous d'avoir été présents et je vous laisse avec le générique de fin. Bisous !